Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58 et vous êtes bien sur RMC, RMC Story. Excellent lundi à tous. Deux actualités à la une ce matin, le foot et la canicule. Dans 10 minutes, nous serons en direct avec le consultant RMC Eric Dimeco sur le deuxième match des Bleus. C'est ce soir, France-Irak, 23h. Est-ce que vous allez veiller, tiens, pour regarder la rencontre? Est-ce que ce match ne doit être qu'une formalité? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, tous les matchs comptent? Attention à tout. Allez, je vous attends au 32-16 et sur le WhatsApp 0612-424-424. Et puis l'autre sujet à la une, bien sûr, c'est la chaleur. 49 départements en vigilance rouge, canicule, des nuits tropicales, des journées dans la fournaise. Et ça pourrait durer jusqu'à ce week-end. Comment vous faites pour vous en sortir, que ce soit chez vous ou au boulot? Quels aménagements, quelles décisions? Et puis surtout pour garder les enfants, puisqu'il y a de nombreuses écoles qui sont fermées au moins cet après-midi. Je vous attends au standard RMC. Et ne manquez pas à 7h40, l'invité d'Apolline Matin, le ministre de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre. Est-ce que le gouvernement fait assez face à ces chaleurs? Étions-nous suffisamment préparé. Question donc à 7h40. Et puis la prime Coupe du Monde, elle a été gagnée, mais elle revient. Aujourd'hui, on vous redonne la possibilité de gagner après les 67 000 euros qui ont été gagnés la semaine dernière. Eh bien, on repart de 30 000 euros et on ajoutera 500 euros à chaque but marqué dès ce soir. Donc vous restez à l'écoute. Il y aura une alerte d'ici 9h. Soyez bien attentifs. Très bon réveil à tous, il est 7h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer, bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La galère pour des milliers de parents face au dilemme de l'école sous ces fortes chaleurs. Plus de 2600 établissements seront totalement ou partiellement fermés ce lundi. Il va falloir s'adapter. Et à midi, la moitié de la France sera plongée dans la fournaise. 35 millions de Français basculeront en vigilance rouge, canicule. Épisode inédit de par son ampleur et sa précocité amenée à durer sans date de fin pour le moment. Et on espère que les Bleus ne nous donneront pas trop chaud ce soir face à l'Irak. 23h avec déjà dans le viseur la qualification en 16e de finale de la Coupe du Monde.
Il est 7h01 et il fait déjà très chaud ce matin.
On a battu des records de douceur cette nuit dans l'Aude, aux heures censées être les plus fraîches. Et le thermomètre reprend déjà des couleurs. À la mi-journée, 35 millions de Français, je vous le disais, seront concernés par la vigilance rouge dans 49 départements. C'est inédit, 40 autres départements seront en alerte orange. Dans ces conditions, 845 établissements scolaires resteront porte close. Ce matin, décision prise au cas par cas, commune par commune, comme à Alfortville, où les parents sont contraints d'adapter leur planning. Martin Juret.
Ce matin, exceptionnellement, Béatrice n'emmènera pas sa fille Amélie à l'école. Elles passeront la journée ensemble à la maison.
Dans mon cas, ça va être du télétravail. J'ai un travail qui me permet ça.
Option choisie également par Stéphanie, avocate, pour garder son fils de 8 ans. Impossible, en revanche, de télétravailler demain.
J'ai une audience, donc ça, je peux pas. Je vais faire appel aux grands-parents si je peux, et puis sinon, je vais devoir potentiellement l'amener avec moi.
Hichem et sa compagne, eux, ont décidé de poser une demi-journée pour garder leurs deux enfants.
Entre les activités, le travail, etc., à un moment donné, il faut faire un choix et les priorités. C'est de s'occuper aussi des enfants. Si ça revient de manière répétée, ce serait un peu plus difficile sur le long terme.
Des solutions plus pérennes sont demandées depuis plusieurs années par Lionel Raffa, secrétaire général de la FCPE du Val-de-Marne, la fédération de parents d'élèves qui dénonce le manque d'anticipation.
On se retrouve avec des municipalités qui sont obligées de prendre le relais de l'État. Est-ce que c'est réellement à des collectivités locales de se préoccuper d'un souci environnemental?
Un seul établissement reste ouvert pour accueillir les enfants des personnels prioritaires comme les professionnels de santé et de sécurité.
1800 autres établissements adaptent leurs horaires. Ils seront fermés cet après-midi. La chaleur sur la table d'une nouvelle réunion interministérielle ce lundi, à l'heure où un premier bilan fait état de 3 morts. Marion Gauthier, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC à Bordeaux ce matin en Gironde, là où ces 3 personnes âgées ont perdu la vie, décès attribué, Marion, aux fortes chaleurs.
Oui, ce sont 3 personnes âgées, une femme et 2 hommes de 80 à 95 ans qui ont péri chez eux à Senon, Saint-Médard-en-Jalles et Saint-Jean-d'Illac, 3 communes de la périphérie de Bordeaux où une attention particulière est portée aux seniors. Information et prévention, appel à ceux qui sont inscrits sur le registre canicule par des agents municipaux mais également des bénévoles. Une réserve citoyenne est mobilisée pour téléphoner ou apporter de l'eau à des personnes isolées. Tout le département est placé en vigilance rouge depuis hier midi. Le thermomètre affiche déjà 24 degrés dans le centre-ville où je me trouve. Il pourrait monter jusqu'à 43 dans la journée. Selon Météo France, cette canicule pourrait avoir un niveau de sévérité proche de celui d'août 2003 qui a fait près de 15 000 morts en France.
Marion Gauthier en direct de Bordeaux ce matin pour
RMC. Et c'est dans cette chaleur écrasante de la première nuit d'été que des milliers de Français ont célébré la fête.
Sans alcool, interdit sur la voie publique, là où la vigilance rouge est de mise, une mesure plus ou moins respectée, surtout moins, Marion Degas a pu s'en rendre compte dans le 10e arrondissement de Paris.
Oui, et très tôt dans la soirée, déjà, de nombreuses bouteilles d'alcool traînent sur le sol. Alors, quand j'évoque l'interdiction...
Honnêtement, ça paraît assez ridicule parce que tout le monde boit partout. Enfin, c'est impossible en soi d'interdire l'alcool dans une fête populaire comme ça.
Loan et Louise viennent d'acheter des bières dans un supermarché.
Tout le monde a son alcool. Puis même tous les bars, ils servent et il y a même des gens qui vendent sur place, quoi.
Avec des glacières et ils vendent des bières ou n'importe quoi.
En effet, de nombreux bars n'ont pas respecté l'interdiction de vendre de l'alcool à emporter. Certains avaient même déplacé leur comptoir dans la rue pour servir les fêtards. Et tout ça parfois même sous les yeux des forces de l'ordre, ce qui a étonné Lunia.
On est passé trois fois devant la police avec nos bières ouvertes. Ils n'en ont eu rien à faire. Ils ont laissé passer sans checker. Et donc on a juste... continuer à boire comme si rien n'était.
Beaucoup de fêtards avaient quand même prévu de l'eau, comme Manon.
On a toutes trois bouteilles d'eau dans nos sacs. Dès qu'on sent un peu qu'on a chaud, on boit de l'eau.
Avec cette chaleur, il vaut mieux être prudent, conclut cette étudiante.
Et certains ont profité de l'événement jusqu'aux premières lueurs du jour. L'idée, c'était aussi de pouvoir respirer un peu, se rafraîchir avant une nouvelle journée caniculaire. Géraldine Demory est restée avec nous. Comme hier, on pourrait battre de nouveaux records ce lundi, toute saison confondue. Et le pire, Géraldine, c'est que c'est qu'un début, le début de cette vague de chaleur qui va s'étendre dans la durée sans date de fin à ce jour.
Effectivement, à chaque fois qu'on entreaperçoit une date de fin, elle est finalement repoussée. Ce qu'on sait, c'est que là, on atteint quand même un palier au niveau des températures. Donc entre aujourd'hui et jeudi, ça va assez peu bouger. On reste à des niveaux extrêmement élevés, bien entendu. À partir de vendredi, on pourrait avoir une petite baisse. Mais attention, on va rester sur des températures qui vont rester quand même encore extrêmement chaudes. On attend un petit peu plus instable avec des orages. Et quand on regarde les modèles de prévision jusqu'à 14 jours, on ne voit pas de franche baisse de température. Donc ça nous emmène quand même déjà jusqu'à début juillet. Ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans une situation de blocage anticyclonique. On parle aussi de blocage en oméga, avec comme une poche au-dessus de la France, avec l'air chaud qui se retrouve sans porte de sortie, qui se réactive donc sans arrêt. Et effectivement, on est en train de dépasser ce qu'on a pu voir en 2022, en 2019, en 2003, avec un indicateur thermique qui devrait battre le record absolu de 29,4 degrés du 5 août 2003. Donc intensité remarquable, mais durée exceptionnelle aussi, puisqu'on pourrait bien dépasser les 15 jours, les 16 jours même de 2003.
La chaleur et ses conséquences avec ce matin des galères à prévoir dans les transports. Ce sera le cas en Ile-de-France avec la suppression de trains sur les RER B et D, mais aussi sur les Transiliens. Il est 7h07, vous écoutez RMC, une série d'erreurs individuelles et de dysfonctionnements à l'origine des failles dans l'enquête sur la plainte déposée pour viol l'été dernier contre Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Liana. Premier élément d'un rapport d'inspection remis à Sébastien Lecornu ce lundi.
Et puis tous les regards tournés vers Philadelphie dès ce matin.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
C'est là que les Bleus vont affronter l'Irak à 23h ce soir, heure française. Ce sera sur RMC, 17h, heure locale. Jean-Louis Tour, vous êtes sur place pour RMC. Vous serez au commentaire de cette rencontre, la deuxième du mondial pour les hommes de Didier Deschamps, qui vise la qualification dès ce soir et qui auront aussi la tâche de corriger quelques petites imperfections, celles du premier match.
Oui, d'abord montrer que la première période contre le Sénégal est oubliée. Il faudra pour cela afficher le même visage qu'en fin de match où les Bleus ont mis 3 buts en quasiment 30 minutes. Pour cela, Deschamps devrait reconduire l'animation offensive de la deuxième période. Michael Olysée à côté de Kylian Mbappé en voyant Ousmane Dembélé sur le côté droit. Dembélé, le ballon d'or défendu hier par le capitaine Mbappé et par son sélectionneur pour son rendement éloigné de ce qu'il montre avec son club, le PSG. L'animation offensive sera scrutée, tout comme la performance des 3 joueurs qui débuteront la rencontre et qui étaient remplaçants contre le Sénégal. Bradley Barcola en attaque à la place de Désiré Doué, Manu Koné au milieu de terrain, suppléant Aurélien Tchouaméni et Lucas Digne pour installer une concurrence avec Théo Hernandez au poste d'arrière-gauche. On attend aussi un meilleur Mike Maignan dans les buts pour faire oublier les hésitations du Sénégal. L'adversaire semble tout indiqué pour se rassurer, même si Deschamps ne veut pas prendre l'Irak à la légère, rappelant ses résultats récents, dont un nul début juin contre l'Espagne.
Jean-Louis Tour, qu'on retrouvera donc ce soir au commentaire de ce France-Irak sur RMC, 23h, à retenir également la victoire de l'Espagne face à l'Arabie Saoudite, 4-0. Les Espagnols avaient fait match nul face au Cap-Vert, ils ont récidivé et accrochent l'Uruguay de partout. La Belgique bute sur l'Iran, match nul et vierge. Et puis ce matin, l'Égypte a battu la Nouvelle-Zélande, 3-1, vous l'avez vécu sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 sur RMC, vous avez chaud, tous très très chaud. Il y a Mathieu qui nous a appelle de l'Isère. Bonjour Mathieu.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Comment ça va Mathieu? Vous faites du trail, vous faites de la course à pied et là vous continuez malgré la chaleur?
Ouais, bah là actuellement j'étais en train de vous écouter, en train de courir justement, donc c'est pour ça que j'en profite pour vous appeler.
Ouais.
J'entendais Anthony Morel qui présentait des applications pour pouvoir utiliser son smartphone pendant ces températures bien élevées.
Ouais, bah, du coup vous êtes dit je vais tenter le coup.
Ouais, c'est ça, parce que en fait moi j'utilise une application donc par rapport à la course à pied.
Ouais.
Qui s'appelle WAFAP.
Oui.
Et du coup qui est une application où on peut. C'est un peu comme Waze pour la route, en fait, on peut trouver tous les points d'eau, toutes les zones éventuellement de danger, tout ça.
Mais y compris aussi les questions pour se rafraîchir, c'est-à-dire les ruisseaux,
exactement.
Les points d'eau.
Ouais, c'est ça, on peut trouver tous les points d'eau et on peut même, moi ce que je fais, c'est que je mets mon parcours en avance avant de partir courir, comme ça je peux vérifier que sur l'itinéraire, j'ai tout ce qu'il faut pour être tranquille.
Non mais vous m'épatez. Et alors j'avoue que me dire qu'on vous accompagne dans ces moments, ça me fait très très plaisir. On vous tient la main quand même un petit peu. Enfin je sais pas si c'est vous qui nous entraînez ou nous qui vous entraînons. Pour être tout à fait honnête, un peu des deux. Mathieu, est-ce que vous avez adapté vos horaires? Est-ce que parce que quand même pour faire du trail le matin, est-ce que vous le faites un peu plus tôt que d'habitude ou vous gérez?
Ouais, bah là je suis passé en mode en heure d'été, hein, clairement. Là je me suis levé ce matin à 5h30 pour pouvoir aller courir à la fraîche.
Ok.
C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable hein, que de partir en plein milieu d'après-midi.
Et le soir, vous vous couchez à quelle heure du coup?
Bah le soir, ça dépend s'il y a des matchs à regarder ou pas.
Voilà, c'est ça.
La Coupe du Monde.
Ce soir, vous allez veiller malgré tout?
Non, je pense pas. Non, je vais être raisonnable. Je vais me coucher bonne heure et me relever demain matin un peu plus tôt pour aller courir.
Merci beaucoup Mathieu en tout cas de nous avoir fait partager. Donc redites-moi, c'est WAFAP, hein?
Ouais, c'est ça. WAFAP, W-A-2-F, app comme application.
Le Waze des coureurs du matin. Merci en tout cas Mathieu, il est 7h11 sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il va falloir veiller tard ce soir parce qu'après la victoire inaugurale, les Bleus affrontent l'Irak pour leur deuxième match de Coupe du Monde et ce sera à 23h. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour Apolline.
Eric, notre fil rouge tout au long de la compétition, ancien international français, consultant RMC. France-Irak, 23h ce soir avec des changements d'abord par rapport au premier match.
Oui, on nous annonce 3 changements. Alors on les attendait un petit peu, hein, notamment la présence de Lucas Digne au poste d'arrière gauche. Voir Manu Koné au milieu de terrain, c'est aussi normal parce que on se rend compte que sur ce match-là, Didier a peut-être envie de voir certains garçons. Et je suis particulièrement content de voir Barcola en pointe parce que ce garçon amène toujours quelque chose quand il rentre. Il a cette vitesse, cette profondeur, et je l'ai trouvé bon sur le dernier match quand il est rentré. Il a mené beaucoup de peps et je pense qu'il peut jouer une place de titulaire dans cette équipe.
Et alors, il ne faut pas prendre l'Irak à la légère. C'est ce que nous disait tout à l'heure Jean-Louis Tour en direct des États-Unis. Chaque match compte et ce soir, ça peut aussi être quand même une difficulté.
Alors, une difficulté, peut-être pas. Non, mais probablement.
J'aime bien parce que Eric, je sens que là, vous voulez pas totalement me contredire. Mais vous pouvez, hein. Vous pouvez me dire
non, mais
c'est du délire. Ok.
Non, mais on a vu encore l'Iran hier soir. On a vu le Cap-Vert qui fait des résultats. Donc les équipes maintenant, même les petites équipes, celles considérées comme des petites équipes, sont bien préparées physiquement, tactiquement. Généralement, elles ont un staff aussi qui tient la route. Après, c'est qu'une question de talent. Donc il faut se méfier. Si on fait pas le job, on peut être embêté. Et je pense que Didier, puisque c'est quand même le match le plus simple de la poule, je pense que Didier veut vite tuer ce match-là pour faire tourner et reposer ses garçons parce que le dernier match de poule va être important pour la première place.
Et c'est ça ce qui va se jouer aussi. Philippe tient en direct avec nous, qui nous appelle de Corrèze. Bonjour Philippe.
Ouais, bonjour.
Comment ça va Philippe? Vous bossez dans le sport, hein?
Bonjour.
Ouais, je suis préparateur mental.
Préparateur mental pour des sportifs de haut niveau?
Pour tout type de niveau en fait, pas que pour des sportifs d'ailleurs. Pour des étudiants, pour des entreprises, mais principalement des sportifs. Ouais.
Donc la concentration, Philippe, il faut être concentré ce soir. À l'instant, Eric Dimeco évoquait aussi Cap-Vert, qui a quand même fait match nul avec l'Espagne, donc qui s'est retrouvé quand même face à un os. La Belgique face à l'Iran. On se dit du coup que chaque équipe peut avoir sa surprise. Hein.
Ouais, exactement. Bah, c'est vrai que il y a la phrase facile de, il y a plus de match facile, mais c'est vrai que il y a plus de petites équipes non plus. Je crois que c'est vrai. Bah, je pense que les équipes qui sont un peu moins fortes techniquement jouent très bas. Souvent, c'est les blocs bas. Du coup, ça a beaucoup moins d'espace et du coup, beaucoup plus compliqué de se créer des occasions. Donc, c'est ce qui va être le lot du match de ce soir, je pense.
Vous allez veiller, Philippe.
Alors je vais veiller la première mi-temps, je pense, parce que je me lève à 5h demain matin, donc je vais essayer, ouais, quand même d'être un peu plus raisonnable. Bon, après il fait 35 degrés, donc je sais pas si je pourrais dormir avant, de toute façon.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est un bon prétexte, ouais. C'est que de toute façon on se dit qu'on aura du mal à dormir, donc autant en profiter. Eric, si on passe effectivement ce soir, je dis si parce que je suis quand même toujours superstitieuse, donc je fais gaffe. Eric, si on passe, effectivement c'est direction pour le coup les 16e de finale.
Alors oui, bien sûr, avec deux victoires on est qualifié, mais je le disais tout à l'heure, il y a une donnée importante en finissant premier. Malgré tout, on s'offre un tableau un petit peu plus facile et la finale de ce groupe-là serait contre la Norvège, un match attendu finalement contre une équipe on connaît pas mal de joueurs, mais collectivement, on les joue rarement. Voilà, donc ça va être un match excitant. Et c'est pour ça que je pense que Didier voudra avoir toutes ses forces sur ce match-là, et notamment ses forces physiques. Donc ça m'étonnerait pas de voir 5 changements assez rapidement ce soir quand l'équipe de France aura fait le job.
Pour pas user nos joueurs, 100e match de Kylian Mbappé ce soir. Les deux buts au premier match, capitaine. On a l'impression que finalement, il y a eu vraiment amour-haine ces derniers temps. Mais ça y est, tout tourne autour de lui à nouveau.
Oui, c'est un petit peu l'histoire de ces joueurs-là et toutes les nations ont un garçon qui, enfin toutes les nations, non peut-être pas toutes, mais en tout cas celles qui sont programmées pour aller au bout, elles ont ce joueur-là qui est capable de faire gagner un match à tout moment. Voilà, on a vu l'Espagne qui était en difficulté, bah, ils ont fait rentrer Yamal sur le deuxième match et de coup tout se libère. On ne va pas parler de l'Argentine, champion du monde en titre avec Messi qui avait amené ses partenaires sur le toit du monde. Donc c'est l'histoire des joueurs stars. Et des équipes qui ont beaucoup d'ambition.
Merci beaucoup Eric Dimeco, donc en direct évidemment avec nous pour suivre cette Coupe du Monde, et merci à Philippe qui veillera ce soir au moins pour la première mi-temps. Un match à suivre en direct et en intégralité sur RMC, avant match dès 18h, after foot jusqu'à 5h du matin, RMC radio officielle de la Coupe du Monde. Et tiens, ne manquez pas à 7h50 la voix de droite, c'est lundi, c'est Louis Sarkozy, et il reviendra sur ces joueurs de foot qui choisissent ou non de mettre la Coupe du Monde sur pause pour partir assister à la naissance de leur enfant. Ça fait polémique et vous entendrez la voix de droite Louis Sarkozy revenir dessus à 7h50. Mais pour l'heure, il est 7h20 et dans un instant, on va remonter l'histoire avec Arthur Chevalier. Arthur qui va revenir sur la chaleur, et c'est un phénomène pas si nouveau. Voilà ce que nous dira l'historien d'Apolline Matin. Dans à peine 5 minutes, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Essayez de comprendre ce qu'il se joue en ce moment. Est-ce que la guerre est finie? Je lui poserai la question de la guerre en Iran, bien sûr. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h22 sur RMC et RMC Story, quand l'histoire éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier. L'historien d'Apolline Matin sera de retour en direct demain. Ce matin, on revient avec lui sur la canicule. La moitié de la France en alerte canicule rouge, une situation alarmante.
Oui, Apolline, la canicule a un mérite, c'est de nous faire ressentir les choses. Ces chaleurs étouffantes nous mettent tous d'accord, tout simplement parce qu'on en souffre. Le dérèglement climatique, ce n'est pas que des statistiques, c'est aussi une réalité physique et très concrète.
D'abord, d'où vient ce mot de canicule?
Alors, ça vient du latin canicula. Sous l'Antiquité, ça désignait une étoile de la constellation du Grand Chien. Et canicula, eh bien, très logiquement, ça veut dire petite chienne. Et oui, après le soleil, c'était l'étoile qui brillait le plus depuis la Terre. Donc les Romains ont eu l'idée d'associer le nom de cette étoile et l'époque de l'année où on la voyait le mieux, c'est-à-dire en été. Voilà comment on est arrivé au mot de canicule.
Donc le phénomène des grandes chaleurs, c'est pas nouveau.
Alors d'abord, rappelons que les études précises sur le climat, ça ne date vraiment que du 19e siècle, donc c'est plutôt récent, même si on avait déjà des mesures de température depuis longtemps. Mais avant ça, on a quand même des témoignages qui nous donnent des indications. C'est le cas pour l'été de l'année 1636. Cette année-là, une chaleur insoutenable recouvre la France. La pluie se raréfie. Du coup, le niveau des cours d'eau baisse dangereusement. Et forcément, l'eau qu'on buvait devient vaseuse et croupie. Et forcément, on attrape des maladies totalement mortelles pour l'époque, comme la dysenterie qui était une sorte de diarrhée mortelle. Bref, tout ça a été une hécatombe totale. 500 000 morts, Apolline, pour l'été 1636.
500 000 morts en 1636, c'était déjà un sujet prioritaire pour les pouvoirs publics ?
Oui, la température était déjà le sujet numéro un des conversations hein, et les conséquences étaient catastrophiques. Les canicules, évidemment, impactaient les récoltes. Se nourrir devenait à la fois très difficile et très cher. L'État était donc sommé de réagir et il le faisait tant bien que mal. Hein. Par exemple, à la fin du XVe siècle, le roi Louis XI impose un contrôle des prix en période de canicule. Plus tard, Louis XIV fera des réserves de blé et ira jusqu'à interdire les exportations pour se prémunir des pénuries.
Récemment, on a eu des canicules comparables à ce qu'on connaît aujourd'hui ?
Alors, pas la même fréquence, évidemment, mais ponctuellement, ça pouvait y ressembler. C'est notamment le cas de l'été 1911, un des plus meurtriers du XXe siècle, à Paris, le 4 juillet, donc à peu près à la même époque qu'aujourd'hui. Il fait 34 degrés. Au mois d'août, le thermomètre ne descend pas sous 30 degrés pendant 15 jours. Une chaleur meurtrière, les vieilles personnes et les nourrissons s'entassent dans les hôpitaux. Et au total, c'est quand même 46 000 personnes qui vont trouver la mort, dont 30 000 enfants.
46 000 morts
dont 30 000 enfants.
En 1911, dont 30 000 enfants. Et puis bien sûr, il y a eu la canicule de 2003.
Oui, la canicule de 2003, c'est évidemment un tournant apocalyptique des chiffres dans l'Hérault. On atteint 46 degrés, un record à ce jour inégalé. À Paris, il fait 39 degrés pendant 9 jours. En France, on dénombre 15 000 morts quand même. Bref, 2003, c'était évidemment catastrophique et très grave en soi. Mais le problème, c'est que depuis, ça se multiplie et que c'est de plus en plus rapproché. Peut-on réellement accepter de vivre dans ces conditions ? C'est évidemment inhumain, c'est pourquoi la lutte pour le climat est vitale.
7h25, merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour Arnaud. Bonjour. À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, mon invité dans le face-à-face, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel.
Ben oui, Gilles Kepel, l'homme Kepel. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour Apolline. B-O-N-J-O-U-R-A-P-O-L. Non, Gilles Kepel, on va pas tout épeler. Si j'y tiens, J-Y-T-X, ça va être méga long. Alors, on va parler évidemment de l'Iran, car là-bas aussi, c'est la canicule. Il fait 37 degrés à Téhéran, 38 à Ispahan, et pour la fête de la musique, pas d'alcool. Et pas de fête.
Et pas de fête d'ailleurs, oui.
Et pas de musique. Tout a été interdit depuis 78. C'est-à-dire s'ils sont pionniers dans la gestion de canicule, hein, ces gens-là. Pas étonnant que LFI les soutienne. Alors, les négociations entre les États-Unis et l'Iran pour trouver une paix durable au Moyen-Orient ont débuté dimanche dans un hôtel de luxe en Suisse. Le Burgenstock.
Oui, c'était difficile.
Très mauvaise idée d'ailleurs de négocier la paix dans un palace climatisé en Suisse. Les mecs vont vouloir y rester le plus longtemps possible. Évidemment, on va traîner les discussions. T'en as aucun qui va vouloir quitter un paradis pareil. Encore moins pour retourner en Iran ou auprès de Donald Trump. Non, fallait faire ça à l'hôtel Ibis Style de Marc-en-Barœul.
Voilà, là, ça aurait été
d'Ascq, avec ça, quoi. Une belle vue sur la bretelle de l'autoroute A22, sans petit-déj inclus. Là, en 2 heures, c'était réglé comme conflit. Alors, les négociations sont vachement difficiles. J'ai vu que les Iraniens sont furieux parce que Donald Trump a menacé sur les réseaux sociaux de reprendre les frappes sur l'Iran si ce dernier ne contrôlait pas mieux le Hezbollah libanais. Et l'Iran s'est senti insulté. Franchement, je l'ai vu le message. Hein. Ça va, ça va. Il y a eu pire comme insulte hier soir. Les Iraniens, vous auriez ouvert les réseaux sociaux entre 21h et 23h. Là, t'en avais des bandes d'enfoirés. Allez vous faire foutre aux chiottes, les Iraniens. Alors, pas de la part de Trump, mais de la part des supporters belges.
Oui, voilà.
Parce que leur équipe, elle a pas réussi à battre l'Iran hier. Comme Donald Trump. Notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, John Christmas Big Dick,
yes,
disent les Américains. Il ira aujourd'hui en Suisse pour acheter des chocolats.
Oui.
Non, parce qu'à part ça, je vois pas bien ce qu'il va faire. Hein. C'est pas comme si on avait eu une énorme influence sur le conflit jusque-là. Nous, on se pointe à la troisième mi-temps, en fait. On est pépère. Les gars, bravo, on a été bons, c'est super. On a enfin arrêté la guerre. Alors, on règle les derniers détails. Excuse-moi, t'es qui, toi, à la base ? Ben, je suis la France, parce que nous, on a été aussi crédibles et audibles pendant ce conflit que Carla Bruni pendant un concert.
On est... Oui, il m'a dit, je crois, il était fermé.
Allez, bon courage à Johannes Weihnachten, grosse schlong, Jean-Noël Barrot, et rendez-vous avec Gilles Kepel à 8h30.
Mais on vous retrouve d'ici là à 8h15, Arnaud Demange, comme tous les matins. Il est 7h28, à tout de suite pour la météo et le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La fête de la musique s'éternise à Paris. Quelques fêtards encore présents sur les quais de Seine et certains profitent des températures plus douces pour respirer. 35 millions de Français à la recherche de fraîcheur et la France au ralenti. Elle vient de connaître sa nuit la plus chaude depuis 7 ans. Et les supporters des Bleus donnent de la voix devant la statue de Rocky Balboa avant France-Irak à Philadelphie.
La fête de la musique joue les prolongations ce matin à Paris.
Malgré la fournaise des températures records, des milliers de personnes se sont rassemblées cette nuit pour fêter la musique dans la capitale. Justement, Cassandre Brault, vous êtes en direct des Quais de Seine pour RMC. Quelques franciliens continuent ce matin de faire la fête et certains sont là surtout pour profiter des températures un peu plus douces.
Oui, encore un peu de jeunes ce matin. Ils jouent les prolongations et doucement prennent le chemin du retour. Il fait déjà 25 degrés ici à Paris. Alors l'arrêt obligatoire, eh bien, c'est la fontaine d'eau. Les jeunes viennent s'hydrater, remplir leurs bouteilles, s'asperger le visage, la nuque et chercher un peu de fraîcheur au bord de la Seine. J'irais même jusqu'à dire qu'on sent une légère brise ce matin. Certains sont encore en maillot de bain, lunettes de soleil, éventail et même avec le petit ventilateur portable. Les jeunes prolongent la soirée de la fête de la musique exprès pour cette fraîcheur. C'est le cas de Ilias et Naïla.
Vraiment là on ne veut pas se mettre entre quatre murs et subir. Ça va venir là je pense d'ici quelques heures. On essaye de se rafraîchir au maximum du coup avant.
Il fait un peu bon vu qu'il y a, il y a la Seine, il y a l'eau, du coup il y a un peu plus d'air frais. Et après bah, on rentre à la maison avant que le soleil sorte.
Voilà, et les quais parisiens se vident petit à petit. Les fêtards laissent place aux premiers joggeurs qui profitent des températures un peu plus clémentes pour faire leur sport du matin.
Cassandre Brault en direct des Quais de Seine à Paris pour RMC, toujours en région parisienne. Galère sur les rails, suppression de RER et de Transilien. Seul le RER A circule normalement aujourd'hui. Et cette chaleur écrasante rend le travail difficile et bouscule le quotidien de 35 millions de Français. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct d'Auch dans le Gers, département en vigilance rouge, où le thermomètre va sûrement dépasser aujourd'hui les 40 degrés. Et sur place ce matin, la vie tourne au ralenti.
Oui, il n'y a pas grand monde effectivement sur cette terrasse, mais il y a de la végétation, un petit peu de végétation, une dalle en béton au sol. Bonjour Nelson.
Bonjour.
Vous êtes le serveur ici du Café d'Arol. Il paraît que les gens viennent malgré tout sur cette terrasse, pourquoi ?
Alors oui, ils viennent parce que on a la chance déjà d'avoir une terrasse entièrement ombragée, puis par rapport aux arbres et les courants d'air qui circulent sur la terrasse, ça donne un petit frais que les gens n'ont pas de partout en ce moment.
Et pourtant, il y en a qui veulent rentrer aussi à l'intérieur, pourquoi ?
Alors, parce qu'on a la climatisation et qu'avec cette chaleur, forcément, on s'y sent mieux à l'intérieur.
Alors, aujourd'hui, vous êtes toujours très élégant, vous avez la cravate, le petit gilet noir, c'est pas trop difficile ?
Un petit peu, mais on s'adapte, on n'a pas le choix, ça fait partie du travail, on s'hydrate beaucoup, voilà, on boit beaucoup d'eau et puis on fait aller.
Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici sur place, on ne consommera pas certains plats. Le magret de canard est à bannir aujourd'hui, le cassoulet de Castelnaudary également. Aujourd'hui, c'est salade, beaucoup d'eau et beaucoup de glaçons.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Auch dans le Gers pour RMC. Le système scolaire perturbé aujourd'hui par cette canicule. Près de 850 écoles fermées, 1800 aménagent leurs horaires et report des euros de bac pour 4000 candidats dans les académies de Bordeaux, Lyon, Montpellier ou encore Poitiers. Et les hôpitaux, eux, sont en alerte. Forte hausse des appels au SAMU, plus 30% selon la ministre de la Santé Stéphanie Rist et surtout des soignants déjà très préoccupés, Solène Leroux.
L'inquiétude est évidemment plus grande dans les départements en vigilance rouge.
Plus qu'inquiet, hein.
Louis Soula, chef des urgences du CHU de Rennes en Ille-et-Vilaine.
On fait le passage aux urgences, c'est 10 à 20% de passage en plus et on commence à saturer et on commence à avoir pas mal de patients sur brancard.
Dans un département moins habitué aux canicules, épisode redouté aussi dans le Nord, en vigilance orange, Nicolas Winter est praticien aux urgences pédiatriques de Valenciennes.
On n'a pas forcément des locaux les mieux adaptés pour faire face à ça, hein. On a un climatiseur mobile, mais qui n'est pas forcément encore très efficace. On a des ventilateurs, hein, mais on n'a pas forcément grand-chose d'autre à disposition.
Dans le sud de la France, plus accoutumé aux vagues de chaleur, ce ne sont pas les locaux qui préoccupent Pierre-Marie Tardieu, chef de pôle des urgences du CHU de Nice.
Nous, ce qui nous fait peur, c'est la durée, en fait. Qu'est-ce qui va se passer si ça dure 5, 6 jours, 7 jours et s'il y a des patients un petit peu vulnérables qui vont décompenser pendant ces journées.
Des patients qu'il faudra potentiellement hospitaliser. Ensuite, c'est ce qu'appréhende aussi une urgentiste d'Avignon dans le Vaucluse. Je la cite, je l'ai dit à mes collègues, c'est le calme avant la tempête.
Et la canicule a fait 3 morts en Gironde, une femme et 2 hommes âgés de 80 à 95 ans, annonce la préfecture du département. Et un adolescent est mort noyé hier dans une rivière à Poitiers. Cette alerte inquiétante de Météo France ce matin, cet épisode caniculaire va se poursuivre, voire s'aggraver. Une canicule historique qui dépasse tout ce qu'on a connu en 2003, 2019 ou 2022. Une nouvelle cellule interministérielle de crise est prévue en fin d'après-midi à Matignon.
Et justement, à 7h40, mon invité, donc dans moins de 10 minutes sur RMC, ce sera le ministre de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre. Est-ce que la France s'est suffisamment préparée pour ces vagues de chaleur? Je lui pose la question donc dans un instant.
Et c'est à vivre ce soir sur RMC, France-Irak à Philadelphie.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et la fête a déjà commencé. Les supporters français font monter la pression à quelques heures du deuxième match des Bleus, Florent Germain.
Oui, après avoir mis l'ambiance sur Times Square à New York, les supporters français se sont rassemblés à Philadelphie devant la statue de Rocky Balboa, un lieu emblématique de la ville. Mais ce sont d'abord les Irakiens qui ont donné de la voix.
Oui, on sautait ensemble tout à l'heure. C'est vraiment amical entre les Français et les Irakiens.
Pensez à cette scène de Sylvester Stallone qui lève les poings au ciel. Voilà qui peut donner de la force et de la confiance avant France-Irak.
On vient d'arriver là tout à l'heure à Philadelphie. La ville est géniale. Le groupe de supporters... On est tous là, tous ensemble, et on s'amuse, et allez les Bleus.
Je pense qu'il faut être à la hauteur de notre réputation de Français, d'être prétentieux, je pense que ça va être facile.
Et attention à la malédiction, les irrésistibles Français ont lancé un appel aux supporters, surtout ne pas habiller la statue aux couleurs de la France, il paraît que cela porte malchance.
Il y a une superstition autour de la statue de Rocky qui est derrière moi, où il faut éviter de l'habiller des couleurs de son équipe, parce que a priori ça l'a fait perdre. C'est un usage local, on s'y est plié pour éviter de donner un peu de malchance à l'équipe de France.
Superstitieux et ambitieux, les supporters bleus espèrent que la France mettra rapidement KO l'Irak tout à l'heure à Philadelphie.
Coup d'envoi de France-Irak à 23h. 3 autres matchs au programme. Argentine, Autriche, Norvège, Sénégal, Jordanie, Algérie. Toutes les rencontres sont commentées en direct sur RMC, sur la radio digitale 100% Coupe du Monde. 2 matchs nuls. Surprenant cette nuit au Mondial. La Belgique et l'Iran se sont quittés sur le score de 0 partout et 2 partout entre l'Uruguay et le Cap-Vert.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Lyon-Paris à 13h35.
Le pronostic de Frédéric Kita, son favori, le 3 Ziggy Star, son outsider, le 5 Cléodore.
C'était le journal de Clément Gouitz à 7h37. Il y a le quintet pour gagner, mais il y a aussi la prime de match. Oui, vous l'entendez, vous les entendez, tous ces chiffres qui tournent, tous ces euros qui vont être engrangés parce qu'on remet en jeu la somme de 30 000 euros et on ajoutera 500 euros par but marqué à partir de ce soir. Le montant va donc très très vite augmenter. Sachez que le gagnant de la semaine dernière a gagné 67 500 euros. Donc inscrivez-vous tout de suite. Il faut retenir le montant de la prime parce qu'à tout moment on peut vous appeler. Et plus il y a de buts, plus vous avez d'argent et plus vous avez de chances de gagner beaucoup beaucoup d'argent. Vous envoyez but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire, il est 7h38, vous avez donc jusqu'à 7h48 pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
49 départements en vigilance rouge, canicule, un record, déjà 4 décès dus à la chaleur, plus de 900 écoles totalement fermées et des centaines d'autres partiellement fermées. La France brûle. Est-ce que nous regardons ailleurs? Bonjour Mathieu Lefèvre. Vous êtes le ministre délégué de la Transition écologique. Le gouvernement a-t-il redécouvert le problème? C'est ce que dit LFI, c'est ce que disent les écolos. Je vous pose la question dans un instant. 7h39.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On n'a jamais eu aussi chaud, aussi tôt dans l'année, aussi longtemps. Que fait le gouvernement? C'est vous, Mathieu Lefèvre, qui me répondez. Vous êtes le ministre délégué à la transition écologique, réunion de crise ce matin. On va y revenir, mais attention, je voudrais juste vous alerter parce que je vois qu'il est 7h42. Vous avez jusqu'à 7h48 pour gagner la prime de match. N'oubliez pas, vous envoyez but au 7-32-16. Je suis désolée, je passe du coq à l'âne, mais je ne voudrais pas que ceux qui peuvent remporter plus de 30 000 euros passent à côté. 7h43 sur RMC. Monsieur le ministre, Manuel Bompard hier de LFI vous accuse, je cite, de redécouvrir le problème à chaque canicule. Bon, il n'a pas tort.
Écoutez, depuis 10 ans, le budget de l'écologie a été multiplié par 2. On a fait 3 plans d'adaptation au changement climatique. On maintient des niveaux de financement, par exemple, sur le fonds chaleur pour développer des réseaux de chaud et de froid dans les villes. On maintient un haut niveau de dépenses en matière de prévention des risques. On a rénové 3600 écoles depuis 2022. On a renaturé plus de 1000 hectares dans les villes depuis 2022. Et Monsieur Bompard, lui, depuis 2022, il propose de censurer tous ces budgets qui auraient permis tout cela. Au passage, M. Bompard, avec ses alliés du Rassemblement National, ont proposé de censurer la programmation pluriannuelle de l'énergie qu'a courageusement présenté le Premier ministre.
Ses alliés du RN
Ils sont alliés objectifs dans l'absence de souveraineté du pays. La France a besoin d'avoir une énergie décarbonée, de jouer sur ses deux jambes, sur le nucléaire, sur le renouvelable, de se donner de la visibilité. La France a également besoin d'un grand plan d'électrification comme le présente le Premier ministre.
Si je vous écoute, vous avez l'air de dire que bon, ça va, qu'on a fait ce qu'il fallait. Quand vous avez vu, j'imagine, comme nous tous, ces images de parents, d'élèves qui se retrouvent à se coordonner pour essayer le matin d'arriver avec des scotchs et des couvertures de survie qu'ils scotchent eux-mêmes sur les fenêtres des classes de leurs enfants. Franchement, est-ce que vous estimez que la France était prête?
Je ne dis pas qu'on a tout bien fait et que tout est parfait. Il faut évidemment aller encore plus loin. On fait face à des vagues de chaleur qui sont absolument inédites dans leur précocité, dans leur intensité, à raison du dérèglement climatique que nie d'aucun. Donc il faut continuer à nous préparer. Ce que je dis simplement, c'est que le gouvernement ne découvre pas le problème. Ça fait depuis le début du quinquennat du président de la République que nous jouons sur nos deux sujets, qui sont d'abord atténuer le dérèglement climatique, ça c'est tout l'enjeu notamment du plan d'électrification, et continuer à nous adapter en rénovant des bâtiments publics, en renaturant les villes.
Il y a deux choses. Quand vous parlez du fait de lutter contre le dérèglement climatique, il faut reconnaître que les chiffres de l'INSEE à cet égard sont extrêmement positifs. La France a réussi à faire baisser de 25% ses émissions de gaz à effet de serre. Et ça, il faut le dire, parce qu'effectivement, quand ça marche et quand ça va dans le bon sens, ça baisse. Mais dans le même temps, il y a la question aussi de vivre ces étapes, ces moments de chaleur qui vont durer. Jean-Marc Jancovici, qui était mon invité vendredi, disait que pendant encore plusieurs années, peut-être même dizaines d'années, ça allait continuer à monter parce qu'on dépend pas seulement de ce qu'on fait nous, mais aussi de ce que font le reste des pays. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, comme on le disait, il y a quand même 4 personnes âgées déjà qui sont mortes, en tout cas officiellement, peut-être davantage. Il y a toujours pas de clim pour tout le monde. Pourquoi vous ne proposez pas un vrai grand plan clim pour tout le monde? Un jour, on est passé au chauffage. Pourquoi on passerait pas à la clim?
Non, mais d'abord, vous avez raison. Il faut lutter contre l'atténuation. Il faut atténuer le changement climatique, mais il faut aussi nous adapter. Et on peut pas faire l'un sans l'autre. Et on peut pas se dire qu'une fois que la France sera neutre en carbone à horizon 2050, on aura résolu tous nos problèmes. Il faut évidemment continuer à nous adapter. S'agissant de la climatisation, le débat n'est pas d'être pour ou contre.
J'ai l'impression qu'il est en train d'être dépassé, cette question-là, parce que d'abord les climats se sont améliorés en termes d'énergie et de gaz, mais aussi parce qu'effectivement, à un moment, il va falloir faire face.
Bien sûr, il serait absurde de s'opposer à la climatisation par principe et par dogmatisme. Simplement, ça peut pas être l'alpha et l'oméga de l'adaptation au changement climatique.
Non, mais sans être l'alpha et l'oméga, est-ce qu'on pourrait pas juste quand même commencer par le faire?
Bien sûr, mais d'ailleurs, nous proposons par exemple une baisse de la TVA sur les pompes à chaleur réversibles qui permettent à la fois du chaud et du froid en été. Ça, c'est dans le plan d'électrification prévu par le Premier ministre. Nous proposons également le développement de la géothermie qui permet de développer des réseaux de chaleur, mais aussi
des réseaux de fraîcheur.
Mais simplement, on ne peut pas dire comme Mme Le Pen, plan d'adaptation au changement climatique, c'est la clim partout, tout le temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord privilégier les solutions passives et évidemment, le cas échéant, et notamment pour les publics les plus fragiles, les plus vulnérables.
Mais est-ce que la clim n'est pas restée en France quelque chose qui serait pour les riches et les pollueurs, quoi? Alors que quand on va, ne serait-ce qu'en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées, la clim, c'est populaire, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas cette idée que, en fait, ce serait que les méchants riches qui auraient la clim.
En tout cas, ça ne doit pas être tabou. Et je veux dire, on a pareil un avantage exceptionnel en France, c'est qu'on a une énergie qui est majoritairement décarbonée grâce au nucléaire.
Pourquoi les plus modestes devraient souffrir davantage que les plus riches?
Vous avez pleinement raison. Et d'ailleurs, en matière de changement climatique, ce sont en général les plus vulnérables qui trinquent. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a défendu des mesures que le Rassemblement National et la France Insoumise ne défendent pas, comme par exemple les zones à faible émission. Mais profitons en effet de notre avantage compétitif en matière d'électricité pour développer ce type de solution. Mais ça ne peut pas être la seule réponse que l'on apporte en matière d'adaptation.
Vous l'avez dit, il faut aussi, et bien sûr parallèlement, rénover les passoires thermiques et à l'inverse les bouilloires thermiques. MaPrimeRénov', parlons-en quand même, elle a vu son budget passer de 4 milliards à 2,5 milliards. Est-ce que vraiment ça suffit?
D'abord, MaPrimeRénov', elle n'existait pas avant Emmanuel Macron. On a rénové 1 200 000 logements. Il faut certainement aller plus loin, faire plus. Mais Vincent Jeanbrun, la semaine passée, a annoncé des mesures très importantes en matière de rénovation d'ampleur pour que, par exemple, les brasseurs d'air, pour que les isolations puissent être prises en compte. Je vous parlais des pompes à chaleur. Ce sera évidemment le cas. Mais un mot plus général sur les comptes. Si on n'est pas sérieux sur les comptes comme le fait le Premier ministre, demain, on ne pourra plus du tout investir dans notre pays. On ne pourra plus du tout se préparer à l'avenir parce que le monde qui nous attend, c'est malheureux, c'est ainsi. Mais le rôle des gouvernants, c'est de le prévoir. C'est plus 4 degrés à horizon 2100. Et moi, je veux qu'on soit capable de continuer à investir avec les collectivités locales, avec les entreprises, par exemple dans la rénovation des écoles, la rénovation des EHPAD.
La question, c'est aussi pour les agriculteurs. Bruno, qui nous appelle au 32-16 du Gard. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bruno, vous êtes sur le tracteur, là?
Oui, tout à fait.
Alors, vous commencez plus tôt et comment vous faites pour lutter contre la chaleur?
Ah ben là, j'ai un tracteur qui n'a pas de cabine. Donc, actuellement, on a adapté sur le tracteur un support avec un parasol.
Ah, vous avez mis le parasol sur le...
Oui, oui.
Si vous pouviez nous envoyer une photo, Bruno, ce serait sympa. Vous avez mis donc le parasol sur le tracteur. Vous roulez pas trop vite et c'est bon, ça tient?
Ah ben, ça tient nickel. Alors, on l'a adapté, on l'a accroché et là, ça ne bouge pas. Du moment qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de souci.
Vous avez adapté les horaires, Bruno? Vous avez commencé à quelle heure ce matin?
Ouais, là, ben, 5h et je finis à 13h. Mais après, suivant la température qu'il va faire, avec l'outil que j'utilise sur le tracteur, je peux pas abîmer le raisin.
Et il ne souffre pas trop, le raisin?
Pour l'instant, ça va. Mais bon, avec des chaleurs comme ça, ça risque de brûler le raisin. Donc, et avec l'outil que je passe, ça va chauffer le raisin. Donc, on va éviter de travailler trop tard.
Donc, ne pas travailler trop tard, ça veut dire quoi? À 13h, vous êtes chez vous?
Ouais, 13h au plus tard. Peut-être même à midi, je vais arrêter. On va s'adapter avec le patron.
Avant que le soleil soit vraiment au zénith, quoi.
Voilà, tout à fait. Après, on s'adapte avec le patron. Le patron est très compréhensif, donc il n'y a pas de souci avec ça.
Merci beaucoup Bruno, on est très heureux de vous accompagner sur le tracteur, sous le parasol donc qui est accroché sur le tracteur. Là aussi, une question, les écoles, les agriculteurs, un certain nombre de métiers où c'est particulièrement difficile. 845 écoles et collèges qui seront totalement fermés aujourd'hui, 1800 qui libèrent les élèves dans l'après-midi, les oraux du bac reportés. Ça quand même, c'est une vraie question, pourquoi on n'a pas été capable de l'anticiper?
Écoutez, le gouvernement fait le choix d'une gestion au plus près des territoires, d'une gestion par les préfets, par les élus locaux. Précisément, le Premier ministre a réuni une cellule interministérielle de crise samedi dernier. Il le fera
à nouveau aujourd'hui.
Le ministre de l'Éducation nationale n'est pas pris de court par ce sujet. Des épreuves ont d'ores et déjà été reportées. Il faut évidemment que nous continuions notre logique d'adaptation. Et ça vaut pour toutes les politiques publiques. Et je voudrais dire à ce monsieur à quel point son propos démontre qu'il est absurde d'opposer l'agriculture et l'écologie, puisque les agriculteurs sont évidemment les premières victimes du dérèglement climatique, comme on le voit.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce matin. Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la transition écologique, il est 7h51. On est lundi, et le lundi c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Louis, bonne fête des pères.
Merci.
Parce que vous êtes devenu papa il y a quelques mois, et justement vous vouliez revenir sur le rôle des pères dans la société après les polémiques autour de ces joueurs de foot qui envisagent de quitter la Coupe du Monde pour aller être auprès de leur femme qui accouche.
Rien n'est plus important qu'un père et on a l'impression qu'aujourd'hui chez nos jeunes, rien n'est plus absent qu'un père, Apolline.
Vous nous le dites dans un instant, 7h52.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53 sur RMC. Le bonus sur RMC, on a un message d'Emmanuel Macron.
Et avec Brigitte, on vous souhaite une très belle fête de la musique.
Eh bien merci Monsieur le Président, même si c'est vrai, c'était pas vraiment pour nous en réalité, mais pour les quelques centaines de personnes venues dans la cour de l'Élysée hier soir pour fêter la fête de la musique.
Regarde-moi.
Première performance du concert pour Monroe, la dernière représentante de la France à l'Eurovision, puis un flirt avec Marc Lavoine. Et enfin, ambiance plus techno, DJ Benz s'est même permis, allez, une petite moquerie devant le président.
For sure. For sure. For sure.
Et oui, Fancher, l'extrait d'un discours en anglais d'Emmanuel Macron qui avait fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques mois.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
C'est lundi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Hier, fête des pères, un sujet de société qui s'est invité dans le mondial. Il y a le joueur belge Jérémy Doku qui veut quitter la sélection pour assister à la naissance de son premier enfant. Et à l'inverse, il y a un joueur norvégien qui a assisté à la naissance de son fils, mais en visio. Il n'a pas voulu y aller. Deux choix opposés. Que disent ces choix de nos pères modernes?
Alors, je dois l'avouer, Apolline, j'ai moi-même eu un père happé par une carrière absolument dévorante.
C'était votre père, Louis.
Et lors de la... François Hollande, d'ailleurs, je me bats pour qu'il me reconnaisse.
Voilà.
Et lors de la naissance de mon propre fils, j'étais noyé dans les derniers mois d'une campagne absolument acharnée. Donc, je peux comprendre qu'un joueur de foot rate une naissance pour participer au mondial. Je m'excuse d'ailleurs auprès de sa femme qui doit être pas d'accord du tout et hurler auprès de son poste de téléviseur.
Sur ce sujet, les Sarkozy n'ont donc peut-être pas de leçon à donner.
Alors c'est pas faux, mais c'est pas forcément la présence physique constante qui fait un père. En tout cas, pas seulement. Qu'est-ce qu'un père en vérité? Oui, c'est l'amour. Oui, c'est la présence. Mais c'est aussi la règle, le respect. La limite, bref, c'est une grande partie de ce qui manque aujourd'hui à tant de nos jeunes.
Alors, c'était d'ailleurs votre toute première fête des pères, vous êtes récemment devenu papa.
Merci de le souligner, Apolline, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que ce sujet hante mes jours et mes nuits. Mon propre père était souvent absent physiquement, c'est un fait. Et pourtant, j'avais un père, vous comprenez, très net,
oui.
Très clair, très présent là où cela compte, dans les règles, les interdits, les regards quand je débordais. Il était peut-être même plus présent pour moi. Lorsqu'il était absent, paradoxalement, la structure qu'il avait créée demeurait malgré ses déplacements. Le père, ce n'est pas seulement l'ami du week-end qui joue au foot, c'est aussi l'architecte de nos contraintes.
Une sorte de surmoi. Le père moderne est justement plus présent qu'il ne l'a jamais été. Télétravail, congé paternité, garde alternée.
Alors c'est complètement vrai, comparé au père des années 50 ou 60, c'est incomparable. Physiquement, le père moderne est omniprésent. Mais dans son rôle de père, il ne l'est presque jamais. Nous avons aujourd'hui des pères qui sont des grands frères, des copains, des coachs de motivation, tout sauf des pères. L'amour paternel, c'est celui qui cadre, qui borne, qui frustre. Et c'est précisément par cette frustration qu'il fabrique des adultes. Pierre Valentin, dans Malaise dans la génération Z, paru chez Gallimard cette année, décrit une génération plus déprimée, plus anxieuse, plus fragile que toutes celles qui l'ont précédée. Parmi les causes profondes, rarement nommées, il y a l'effondrement de ces figures structurantes. Et la première d'entre elles, c'est le père.
Et c'est pas seulement le cas en France, hein.
Pas du tout. Il existe un exemple, peut-être le pire exemple d'ailleurs, absolument dévastateur. Aux États-Unis, dans les communautés afro-américaines, près de 70% des enfants noirs américains naissent de mères non mariées. Et une très large proportion grandit sans aucun père au foyer. Les conséquences sont parfaitement documentées par les études. Décrochage scolaire massif, incarcération, pauvreté, violence intracommunautaire. Quand un père disparaît, ce n'est pas seulement un homme qui s'absente, c'est tout un dispositif de transmission qui s'effondre. C'est l'échafaudage moral qui est délaissé. Et quand cet effondrement devient massif, c'est toute une communauté ou dans notre cas,
tout
un pays qui va
s'y... Vous faites un lien entre donc, l'absence de père et ensuite la dérive éventuelle des enfants. En
Bien
France,
sûr.
Comment vous voyez les choses?
Alors, la France entre à sa façon un peu dans le même couloir. Souvenez-vous des images qui font le tour du monde après la finale de la Ligue des Champions du PSG remportée fin mai à Budapest. Les Champs-Élysées dévastés, des magasins pillés, des voitures brûlées, des mortiers d'artifice tirés sur la police, 22 000 policiers et gendarmes déployés. Je regardais ces images et je me posais en vérité la même question qui revient à chaque fois. Mais où sont leurs pères? Enfin, moi, à leur âge, si j'avais fait un dixième de cela, j'en aurais immédiatement payé les conséquences. Et les conséquences, pardon de le dire, ce sont l'introduction à la civilisation. Les actes ont des conséquences. Tu dérapes, tu payes. Et ce sont les pères, plus que les profs ou que les policiers, qui sont chargés de l'enseigner en premier et de l'enseigner en priorité. Car l'enfant poussera toujours les limites. Il voudra défier l'ordre des choses. Le père se doit donc d'être l'avant-garde de la société auprès des enfants barbares qui tentent de l'envahir. Le père, c'est l'apôtre des conséquences.
Donc pour vous, au fond, le père, c'est la politique régalienne?
Les deux sont complémentaires. Alors bien sûr, il faut une plus grande politique régalienne, mais, et c'est tout aussi essentiel, l'État ne peut pas, l'État ne doit pas devenir le père. C'est exactement ainsi que l'on sombre dans l'infantilisation, de l'électorat, et au bout du chemin, l'autoritarisme. Une société d'enfants finit toujours par devenir une société de tyrans. L'État protège, il n'éduque pas. Pour éduquer, il faut un père, un vrai. Et plus les pères assument leur rôle, moins l'État a besoin d'assumer le sien. Une société de bons pères, c'est une société qui a besoin de moins de policiers. Ainsi, la fête des pères ne célébrera pas seulement les hommes qui font des enfants, mais les hommes qui deviennent des pères.
Merci beaucoup Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo. Il est 7h58, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.